Festival pour le Festival.
Des manifestants devant le théâtre des Bouffes du Nord. Hier soir à Paris, ils attendaient Emmanuel Macron qui assistait à une représentation.
Moins de monde dans les rues, mais des actions plus soutenues. Intrusion hier au siège de la CFDT et échanges musclés au Louvre entre touristes et grévistes.
Et une économie qui pâtit de la grève. 1 milliard de pertes annoncées déjà par la SNCF et le port du Havre désormais qui tourne au ralenti.
Les conséquences de leurs actes durent depuis maintenant plus d'un mois. Eh bien, c'est qu'ils sont en train de faire crever les entreprises. Voilà.
Retour à l'usine Lubrizol ce matin. 4 mois après l'incendie, nous ferons le point. L'inquiétude est toujours palpable.
Et puis, clap de fin pour Jean-Paul Gaultier. L'homme à la marinière annonce son dernier défilé.
Ça va être mon dernier défilé de couture. Mais.
J'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après. Tu sais, je te dirai tous les petits secrets. Mais ça va continuer.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Des huées, des sifflets et un président de la République chahuté. Emmanuel Macron a dû quitter le théâtre des Bouffes du Nord hier soir.
Il assistait avec son épouse Brigitte à une représentation de la pièce La Mouche dans ce théâtre parisien, mais le président a été repéré.
Et comme tout va très vite, l'information a été divulguée sur les réseaux sociaux. C'est ainsi que des opposants se sont retrouvés devant les Bouffes du Nord à l'attendre. Ils ont tenté d'entrer avant d'être repoussés par les forces de l'ordre. Récit de cette soirée mouvementée, Jean-Jacques Héry.
Il est 21h environ hier soir lorsque plusieurs dizaines de militants se rassemblent devant l'entrée du théâtre des Bouffes du Nord. Leur cible, Emmanuel Macron. Le président de la République se trouve en effet à l'intérieur. Il assiste avec son épouse Brigitte à une représentation de la pièce La Mouche. À l'extérieur, sur le boulevard de la Chapelle, les slogans et les protestations redoublent.
Merci Macron.
Parallèlement, de nombreux policiers se déploient devant l'établissement. Sur certaines vidéos visibles sur les réseaux sociaux, certains manifestants semblent même avoir réussi à franchir la première porte du théâtre avant d'en être expulsés par la police. Et puis soudain, c'est la charge. Audrey, venue manifester, a vécu toute la scène.
Je dirais au moins 30-40 CRS qui se sont mis à courir vers tout le monde et gazer. Les gens ont pris peur. C'est pas une façon de traiter des personnes qui sont là tout simplement pour protester de manière pacifique. Je pense qu'ils ont évacué Macron probablement sur le côté.
Effectivement, le couple présidentiel est alors en train de quitter le théâtre par une autre sortie, un peu plus loin, dans une berline noire, avec un cortège protégé par un impressionnant cordon de policiers, le tout sous les huées de la foule.
Les explications de Jean-Jacques Héry pour Europe 1.
Et on le constate, si la mobilisation dans la rue faiblit régulièrement, les actions sporadiques de ce type, elles, augmentent.
Hier, en effet, intrusion au siège de la CFDT, des membres de la coordination SNCF-RATP se sont brièvement introduits dans les locaux. Mouvement de tension aussi devant l'entrée du musée du Louvre.
Et pendant ce temps, le port du Havre est complètement à l'arrêt. À l'appel de la CGT, cette opération s'appelle Port Mort.
Et le choix du port du Havre n'est pas un hasard. Évidemment, c'est le plus important de France. 70 millions de tonnes de marchandises transitent chaque année. Enfin, jusqu'à présent, parce que ces derniers temps, l'activité tourne au ralenti, d'autant que le blocage va être reconduit au moins 3 jours à partir de lundi. Sadia Sissaïd.
Des dizaines de camions qui tourneront, des conteneurs bloqués et des transporteurs qui se tournent les pouces. Voilà la réalité du port du Havre en ce moment. Pour la société de transport de Christine Jaouen, la situation est dramatique. Ces 50 camions n'ont pu ni importer ni exporter de marchandises depuis plusieurs jours.
Nous sommes au Havre, mais sans capacité en fait à sortir les conteneurs du port et donc à travailler. Donc économiquement, c'est catastrophique. Ça met notre personnel au chômage technique. Voilà.
Et du chômage technique, beaucoup d'entreprises y ont recours. Pour Philippe Bonneau, secrétaire général de l'organisation des PME du transport, la situation devient intenable.
Nous arrivons à des situations où les entreprises sont jusqu'à près de 42% en moins de chiffre d'affaires par rapport à l'an passé. Les conséquences de leurs actes durent depuis maintenant plus d'un mois. Eh bien, c'est qu'ils sont en train de faire crever les entreprises. Voilà.
Et c'est pourquoi l'organisation du transport routier a demandé une intervention d'urgence du Premier ministre pour débloquer les ports français.
Sadia Sissaïd pour Europe 1. Le trafic SNCF lui sera encore perturbé ce week-end, mais il y a une amélioration. Plus de RER, plus de Transilien et un service TGV quasiment normal. Côté RATP, 7 lignes de métro fonctionnent aujourd'hui normalement.
On en vient à l'hommage des policiers à leurs collègues. Percutés par un fourgon, c'était lors d'une opération de surveillance.
Franck Labois, 45 ans, mort en début de semaine. Et hier, cérémonie solennelle dans la cour d'honneur de la préfecture du Rhône, où le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place. Mathieu Bock était également là. Il a justement pu entendre le ministre de l'Intérieur apporter son soutien aux policiers.
Moi aussi, je suis en colère. Quand je pense qu'on peut tuer un policier de sang-froid, quand je pense aux insultes, aux coups, aux projectiles qui sont lancés, quand je pense aux menaces que vous et vos familles subissez, en colère, quand je pense enfin à la complaisance pour les violences de certains et aux leçons de vertu qu'on assène à ceux qui accomplissent leur devoir républicain. Mais ne laissons pas, jamais, la colère l'emporter et faisons confiance à la justice. La justice, c'est respecter les consignes des forces de l'ordre. La justice, c'est savoir distinguer le vrai du faux et être solidaire de celles et ceux qui nous protègent, nous et nos institutions.
Christophe Castaner au micro Europe 1 de Mathieu Bock. Et puis après 4 jours de témoignages glaçants, le procès du père Bernard Prenas s'est achevé hier. En attendant le jugement le 16 mars prochain, le prêtre accusé de nombreuses agressions sexuelles auprès de jeunes scouts, la procureure a requis une peine de prison de 8 ans au moins.
Nous sommes près de 4 mois après l'incendie de l'usine Lubrizol. Les riverains maintiennent la pression. Dans un instant, nous serons à Rouen dans la suite du journal.
Europe 1, il est 6h06. Europe 1. Retour de l'actualité avec Lénaïck Monnier et François Geffrier.
Et nous retournons à Lubrizol 4 mois après l'incendie qui avait ravagé l'usine près de Rouen.
Hier, les élus et les associations ont pu se rendre sur le site. C'était la première fois, même si un collectif de citoyens a boudé l'invitation. Une quarantaine d'élus et des membres de l'Agence régionale de santé normande, eux, ont bien été sur place. Qu'en ont-ils pensé? Reportage de notre envoyée spéciale à Rouen, Hélène Terzian.
Ça avance.
Dossier sous le bras, Mélanie Boulanger est soulagée lorsqu'elle ressort du site par les portiques de sécurité. La maire de Canteleu, commune voisine, était pourtant perplexe après la réouverture partielle de l'usine.
Aujourd'hui, un certain nombre de questions en matière de sécurité et de sûreté ont été apportées.
Élus et associatifs ont visité les 2 unités de mélange qui ont redémarré, les salles de contrôle, constaté les travaux réalisés comme la construction des bacs de rétention pour éviter les fuites de produits. Claude Barbet de France Nature Environnement salue les efforts réalisés.
Ce serait malhonnête de dire qu'on attend encore autre chose. Et il faut bien qu'ils recommencent à travailler. Si on veut qu'ils paient tout ce qu'on leur demande, je ne sais pas d'où certains pensent qu'on peut sortir tant de millions.
Un sentiment loin d'être partagé par d'autres visiteurs. Françoise Lesconec, adjointe au maire de Rouen, estime que trop de questions restent en suspens.
Mon sentiment, c'est que tout n'est pas dit. Notamment sur la question des intrusions possibles, la possibilité d'une attaque par drone, par exemple. On a pu le voir sur des centrales nucléaires. Là, la préfecture ne nous répond pas. Nous ne pouvons pas avoir des réponses à toutes les questions que nous posons. Ça, c'est quand même extrêmement gênant.
Enfin, pour certains, il faudra aussi que les leçons soient tirées pour tous les sites Céveso. Rouen et l'Interzian, Europe.
C'est l'homme à la marinière, évidemment. Il tire sa révérence. Jean-Paul Gaultier donne mercredi son dernier défilé.
Une dernière Fashion Week pour le couturier qui fête ses 50 ans de carrière au Théâtre du Châtelet. C'est une page qui se tourne, même si Gaultier annonce avoir d'autres projets. Virginie Salmen.
Avec sa marinière bleue et blanche, Jean-Paul Gaultier est le couturier français qui a tout osé. Habiller Madonna, star provocatrice s'il en est, d'un iconique bustier avec les seins pointés, fait défiler des femmes rondes comme Bess Ditto, des icônes populaires comme Nabila, des transsexuels, des mannequins dont on ne savait pas s'il s'agissait d'hommes ou de femmes. Jean-Paul Gaultier a commencé à dessiner des tenues pour son ours en peluche quand il était tout petit, élevé par sa grand-mère. Il a toujours revendiqué ses origines populaires, il aime jouer avec les codes et il aime jouer tout court, comme dans cette vidéo qu'il a postée hier soir dans laquelle il fait semblant de téléphoner à quelqu'un.
Je vais te dire un scoop. Ça va être mon dernier défilé de couture. Donc tu viens, tu ne peux pas manquer ça. Mais
je te rassure, Gaultier Paris continuera. La haute couture va continuer. J'ai un nouveau concept. Je te raconterai tout ça après. Tu sais, je te le dirai tous les petits secrets. Mais ça va continuer. Bisous.
Jean-Paul Gaultier annonce donc son dernier défilé, mais pas la fin de la haute couture pour sa marque. Ses équipes gardent le silence total sur ses futurs projets, alors que le spectacle qui retrace sa vie, le Fashion Freak Show, cartonne et va démarrer une tournée en Russie.
Virginie Salmen pour Europe 1.
À 6h10, c'est votre journal des sports avec Lénaïck Monnier.
Et l'OM qui tient sa qualification en Coupe de France, mais ça n'a pas été simple.
Non, Marseille opposé à Granville qui joue en National 2, c'est la 4e division. Il a fallu le dernier quart d'heure du match pour venir à bout. 3-0 des Normands qui ont cru à la victoire. Écoutez, l'entraîneur de Granville justement, Joanne Gallon.
Bien sûr qu'on y a cru. Je pense qu'on n'a été jamais aussi près d'un exploit. On a joué, on a pris plaisir à jouer, à prendre des risques et on s'est procuré des occasions, des situations. Et je pense que c'était le jour pour faire un exploit, mais malheureusement, voilà.
Vous aviez dit dans la semaine, jouer l'OM en Coupe de France, c'est un peu monter l'Everest en claquette. Vous étiez à 4 ou 5 000 mètres, voire 6 000 là.
Ouais, c'était une expression pour faire voir qu'on jouait quand même contre un grand club du football français. Mais j'étais persuadé qu'il y avait moyen de faire quelque chose. J'avais confiance en mes joueurs, confiance en ce qu'on avait mis en place, au travail qui a été fait depuis 10 jours. Voilà. Donc, le problème, c'est que l'Everest, il est plus haut qu'à 5000 ou 6000 mètres. Et il manquait quelques mètres pour arriver au bout. Donc la prochaine fois, je le ferai en chaussures et peut-être que j'arriverai au bout.
Voilà, on y croit en tout cas, propos recueillis par Jean-François Pérez.
Ce soir, la suite des matchs avec, entre autres, ce choc entre Nantes et Lyon.
Oui, pour une place en 8e, hein, toujours. C'est le 4e contre le 7e de la Ligue 1. Sacré rythme pour l'OL qui dispute aussi la demi-finale de la Coupe de la Ligue la semaine prochaine et puis plus tard la Ligue des Champions. Tous les matchs comptent. Écoutez Rudy Garcia, l'entraîneur lyonnais.
La même importance, on joue tous les matchs pour les gagner. On ira à Nantes pour se qualifier. On sait que ce ne sera pas facile, déjà parce qu'ils sont bien classés en championnat, parce que chez eux, c'est une équipe difficile à manœuvrer. Mais voilà, c'est la coupe. Ce sera un match à élimination directe. On espère ne pas aller aux prolongations, parce qu'on jouera malheureusement 3 jours après, non pas 4 jours après. Excusez-moi de m'étonner sur la programmation de ce match. Quand on voit qu'il y a des équipes qui jouent plus tôt et qui ne joueront pas en semaine la Coupe de la Ligue, bon. Mais encore une fois, même pour l'intégrité physique des joueurs et pour la qualité du spectacle 3 jours après, c'est pas la même chose, quoi. C'est aussi simple que ça.
Rudy Garcia avec Maxime Schoch, match à suivre dès 21h sur Europa en intégralité. Et puis il y a d'autres affiches à suivre. Le petit poussé de la compétition, c'est la Jeunesse Sportive Saint-Pierroise, un club de La Réunion qui joue en 6e division et qui est à Épinal ce soir. On suivra aussi Nice Red Star notamment, ou Paris FC face à Saint-Etienne.
Et puis c'est presque le coup d'envoi de la saison de cyclisme et donc le retour notamment de Thibaut Pinot.
Qu'on avait laissé après son abandon à 2 jours de l'arrivée du Tour de France, a-t-il digéré 6 mois après ?
Voilà, c'est une déception, une très grande déception, mais après il faut digérer, il faut avancer et je me remettrai comme je me suis toujours remis de mes déceptions sportives. Quoi.
Ça serait quoi une année 2020 réussie ?
Une année 2020 réussie, c'est des belles victoires, voilà, la possibilité de jouer avec, sur toutes les courses où j'ai envie d'être là. Donc, mais voilà, déjà me battre comme j'ai pu me battre sur Tour de France avec mes jambes, mon potentiel sur toutes ces courses-là, ça serait bien. Ouais.
Thibaut Pinot au micro Europe 1 d'Axel May.
Merci beaucoup, c'était le journal des sports et le journal de Lénaïque Meunier. Vous revenez tout à l'heure à 7h. Europe 1.